Vous écoutez RTL. 7h-9h30, RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Vous avez rendez-vous avec Laurent Gérard dans quelques minutes, mais à 8h39, la revue de presse d'Adeline François. Et ce matin dans la presse, Adeline, ouverture, fermeture.
Imaginez d'abord plusieurs centaines de mètres carrés de bitume abandonnés aux seuls hommes et où les femmes n'ont plus droit de citer. Cafés, bars, restaurants leur sont interdits, comme les trottoirs, la station de métro, les squares. Ce quartier, c'est le quartier Chapelle-Pajol dans l'est de Paris. Et c'est un reportage effarant dans Le Parisien ce matin. Depuis plus d'un an, le quartier situé à cheval sur les 10e et 18e arrondissements a totalement changé de physionomie, explique le journal. Des groupes de dizaines d'hommes seuls, vendeurs à la sauvette, dealers, migrants, passeurs, tiennent les rues, harcelant les femmes. Les jeunes filles, à force de se faire insulter, ont renoncé à sortir seules, à porter une jupe ou un pantalon trop près du corps. Nous avons tout droit à un traitement insupportable, dit Nathalie, 50 ans. Dont 30 passés dans le quartier. Elle y a noté un climat inédit ces derniers mois. « Moi, je ne me mets même plus à ma fenêtre, je ferme les volets », dit sa voisine de 38 ans. Mais les habitantes du quartier ont décidé de se révolter et viennent de lancer une vaste pétition intitulée « Les femmes, une espèce en voie de disparition au cœur de Paris ». Elles ont aussi décidé d'organiser dans les jours qui viennent une marche exploratoire. Ensemble, elles vont parcourir tous les lieux du quartier où elles sont indésirables, puis rendront compte au pouvoir public de leurs observations. C'est hallucinant et c'est à lire ce matin dans Le Parisien.
Ouverture, fermeture toujours, l'avenir d'un pays est en jeu ce matin.
Non, je n'irai pas voter. De toute façon, tous les candidats sont issus du même système. Conversation entre trois copines qui expriment la même défiance envers les postulants à une présidentielle. Mais non, lui rétorque leur patron, il faut absolument faire barrage. C'est comme en France, fallait voter Macron au second tour pour empêcher Marine Le Pen d'être élue. Cette scène se passe à 5000 km de Paris, nous sommes à Téhéran. Et elle est rapportée par Georges Malbruno, l'envoyé spécial du Figaro, en Iran. Élection présidentielle ce vendredi, toute ressemblance avec d'autres scrutins passés ne serait pas fortuite. L'élection met aux prises deux candidats, Hassan Rouhani, le président modéré sortant, face à lui le conservateur Ebrahim Raisi, protégé du guide suprême, et qui voit dans le rapprochement récent avec l'Occident le risque d'une invasion culturelle. La campagne iranienne a été rythmée par des débats télévisés très houleux. « Si vous n'allez pas voter », a dit Rouhani à propos de son rival, « il érigera des murs dans les rues pour séparer garçons et filles ». Raisi, turban noir des descendants du prophète sur la tête, c'est lui présenté pendant toute la campagne comme le candidat des laissés pour compte. Quand Rouhani parle à l'intellect des électeurs, Raisi, lui, s'adresse à leur tripes, résume Malbruno. Les élections en Iran, qui sont également dans les échos, ouverture ou retour en arrière, dit le journal. Retour vers le passé, se demande Libération. Iran, un scrutin décisif en une de La Croix, qui place l'économie au cœur de ce scrutin, rappelant que Rouhani a pour lui d'avoir cherché à tirer son pays d'un long isolement en signant l'accord sur le nucléaire en 2015. La levée des sanctions a ensuite notamment permis le redémarrage de l'exploitation pétrolière. Le taux de croissance en Iran est passé de 0,4 à 6,9 depuis 2015. L'inflation de 40 à 8%. Iran, l'espoir est en marche, titre ce matin Le Point.
Ouverture puis fermeture, la com d'Emmanuel Macron passée au crible.
Ah oui, hein, au lendemain du premier conseil des ministres du quinquennat, un constat s'impose ce matin dans la presse, ainsi résumé en une de la Nouvelle République du Centre-Ouest. Un gouvernement en marche et aux ordres. Silence dans les rangs, écrit Michel Guillou dans l'Humanité. Le premier conseil des ministres a donné le ton, qu'aucune tête ne dépasse, qu'aucune fausse note ne vienne troubler la partition, que rien ne vienne contrarier un tant soit peu la manière absolutiste qu'entend donner l'heureux élu à son règne. Culture du secret et papier glacé, la communication selon Macron, ça c'est la couverture de M, le magazine du Monde, qui raconte la super production Emmanuel Macron. Paroles rares, pas de off, plus de déjeuner, tout l'inverse de François Hollande. Aux manettes de cette boîte de prod, une petite bande qui s'est connue en soutenant naguère DSK, bande à laquelle est venue s'ajouter Mimi Marchand, la reine des paparazzis. Communication donc très verrouillée pour éviter le moindre faux pas, avant des législatives cruciales, expliquent de leur côté les échos. Ce quinquennat s'ouvre sous le règne d'une communication ultra contrôlée pour Laure Breton dans Libération. Tellement contrôlée que l'Élysée a même choisi les journalistes autorisés à accompagner le chef de l'État au Mali, ce qui suscite ce matin un vent de fronde dans la presse. Lire dans Le Monde la lettre ouverte au président signée par une quinzaine de rédactions, dont celle de RTL. pour signifier à Emmanuel Macron qu'il n'appartient en aucun cas à l'Élysée de choisir ceux qui ont le droit ou non de couvrir un déplacement, quel qu'en soit le thème. Ce choix relève des directions des rédactions et des journalistes qui la composent. Décidément, le candidat des médias n'est plus ce qu'il était.
On termine à Cannes ?
Oui, deux jours après l'ouverture du festival, je vous conseille la lecture ce matin du supplément week-end des Échos, entièrement consacré au festival et au cinéma plus généralement. Mm-hmm. Reportage notamment sur les business des photographes. Comment tirent-ils leur épingle du jeu à l'heure où les stars verrouillent leur com et publient leurs propres photos sur les réseaux sociaux ? Le magazine rappelle qu'en 83, les photographes avaient posé leur appareil et fait grève pour la montée des marches d'Isabelle Adjani afin de dénoncer les caprices de la star. Un peu plus loin, le magazine donne aussi la parole à des personnalités passionnées de cinéma. Parmi elles, il y a Françoise Nyssen, présentée comme la patronne des éditions Actes Sud. Bon, entre-temps, il faut quand même rappeler qu'elle est devenue ministre de la Culture, ils ont dû boucler trop tôt. Son premier cinéma, c'était Ben-Hur. Son film préféré, Nous nous sommes tant aimés. Sa palme préférée, Le vent se lève. Un beau résumé de cette semaine politique.
C'était la revue de presse d'Adeline François.